Radio Cité Genève, Viviane Devitt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important grâce à Isabelle Nazaraga. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Isabelle, vous avez écrit sur le même sujet, d'ailleurs, beaucoup de livres sur les manipulateurs. Ces fameux manipulateurs qui sont parmi nous, vous dites-nous, aux éditions de l'Homme, le dernier livre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un manipulateur ?
Définition impossible à formuler en une seule phrase.
Vous pouvez en dire beaucoup. Hein.
Non, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire que si on regarde le dictionnaire, on va voir qu'une personne peut vous amener à faire des choses que vous ne souhaitiez pas faire à votre insu. Certes, ça ne fait partie que d'un processus parmi tant d'autres qu'on va certainement avoir le temps de décrire aujourd'hui, mais j'ai cumulé 30 caractéristiques typiques du profil de manipulateur. Je veux quand même spécifier une autre chose, c'est que quand nous utilisons manipulateur au masculin, il s'agit du générique et cela concerne...
Il y a aussi des manipulatrices.
Voilà, ça concerne les femmes. Alors ce que je vais juste éviter pendant tout le temps de l'émission, c'est de dire, un peu comme les politiciens qui disent français et française, on va dire les manipulateurs.
Ici, on est en Suisse.
Donc, les Suisses, c'est encore plus pratique parce que Suisse et Suisse, c'est pas sexué.
Voilà.
Donc, les manipulateurs, pour être très clair, et on va peut-être le redire, mais il s'agit aussi des femmes. Et donc, c'est un cumul de 30 caractéristiques et il en faut au moins 14 pour pouvoir dire, là, j'ai affaire à
Isabelle,
un profil comme ça.
Les femmes, les hommes, on a bien compris que c'était les deux, mais il y a une proportion ou c'est pareil ?
Alors, depuis trentaine d'années que je suis sur ce sujet, avec autant de victimes à mon actif en tant que thérapeute, je pense que c'est 50-50, ça peut être 45-55, 60-40, mais il n'y a pas... plus d'hommes manipulateurs ou plus de femmes manipulateurs, d'après mes observations. Maintenant, il y a plus de femmes qui s'en plaignent, notamment dans le couple. Donc, il y a un biais. C'est comme travailler aux urgences d'un hôpital et dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme blessé ici ? Ben non, c'est pas dans la région qu'il y a le plus de blessés, c'est parce qu'il y a... C'est le lieu de plainte, on va dire. Et les femmes vont plus voir des thérapeutes, vont plus voir des psychologues exprimer leur souffrance quand elles sont dans un couple, la plupart du temps avec un homme. Et donc, non, ce n'est pas plus les hommes que les femmes.
Alors Isabelle, vous êtes thérapeute, comportementaliste et cognitiviste.
Oui.
Ce sont des mots savants, ça.
Oui, alors comportementaliste, je pense que les gens peuvent imaginer qu'on peut aider les personnes à faire des actes différents. Donc, on peut faire des jeux de rôle en préparation, par exemple, à une discussion qui peut être pénible ou stressante. Donc ça peut se faire dans un cabinet. Et puis, le cognitivisme, c'est l'approche des pensées. C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes élevés avec ce qu'on appelle des cognitions, c'est-à-dire des croyances, des principes, des pensées. Or, on a une partie en nous qui pensons faux, on va dire ça. C'est-à-dire qu'on a des croyances irrassionnelles.
Ce sont les parents qui ont transmis
général. Et alors, en général, je dirais le plus gros pourcentage de nos cognitions viennent de nos papas-mamans. Ensuite, on a quand même l'école, donc instituteur, professeur. Et puis, on a la société. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes cognitions quand on est suisse, quand on est belge, français ou libanais. Et on transporte avec nous, sans le savoir, un nombre de choses qui nous paraissent évidentes, alors qu'en fait, elles sont contextuelles et qu'elles ne devraient pas être généralisées. Mais il est naturel chez les parents d'enseigner des choses générales. Hein, on met pas le doigt dans le nez, on crache pas par terre et on dit bonjour à la dame.
Mais jusque-là, ça va.
Et jusque-là, ça va. Mais
c'est pas de la manipulation, ça, quand même, c'est de l'éducation.
Exactement. Voilà, exactement. Sauf que les manipulateurs vont faire croire, notamment s'ils sont parents, et la plupart vont faire des enfants, c'est qu'ils vont enseigner des choses erronées pour culpabiliser leur fils ou leur fille, qui vont grandir, et même à 60 ans, qui vont continuer à être coupables parce qu'ils ne l'ont pas appelé tous les jours, par exemple.
Alors, Justement, dans la manipulation, il y a beaucoup la victimisation de... Voilà, ça, c'est... ça vous paraît pas l'essentiel, ça, du manipulateur ?
Alors, c'est un des points. Un des points essentiels. Effectivement, parmi les 30... il fait croire qu'il est mal loti parce qu'il n'est pas aidé par ses collaborateurs ou que...
Il est mal aimé. Il est mal aimé.
Il ne le dira pas.
Il ne le dit pas.
Ça. Non, il ne le dira pas. Ce n'est pas qu'il est mal aimé. Au contraire, moi j'ai eu un manipulateur dans ma clientèle, un vrai, et quand il avait des comportements ahurissants comme accepter 3 invitations à dîner, ça se passait à Paris, le même soir... Et il avait accepté. Et j'ai dit, mais comment vous faites ? Parce que vous allez devoir quand même rappeler pour dire que bah, vous ne pouvez pas y aller. Ah non, non, j'y vais. Mais vous faites comment ? Et il me dit, bah, je vais prendre l'entrée. C'est-à-dire que je vais arriver, je vais prendre l'apéritif et l'entrée chez Martine.
Il n'a pas dirigé une importante société dans le pétrole, ce monsieur ?
Il pourrait, mais ce n'est pas celui-là.
Non, parce que moi, j'en ai eu un comme ça qui venait chez moi, accessoirement...
Enfin, pour se montrer.
Oui, pour l'entrée ou pour. Il n'est jamais resté tout le dîner.
Eh bien, c'est ça. C'est ahurissant. Et quand c'était bien la première fois, là, ça se passe il y a 25 ans, la première fois que j'entendais un truc pareil. Et il reste, et il va, il s'en va, bah, où tu vas, ah, bah, excusez-moi, je te l'ai pas dit. Ah oui, parce que le manipulateur, il vous fait croire qu'il a prévenu. Bah, non, tu m'as pas dit que tu pouvais pas rester au dîner. Moi, j'ai prévu le gigot pour nous 6. Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais non. Alors, il peut inventer aussi. Il m'expliquait, hein. Mais alors, pas de culpabilité. Et alors, il va faire le troisième, il part chez numéro 2, et il fait la même chose pour aller prendre le dessert chez numéro 3. Et là, je lui dis, parce que j'ai étudié aussi avec des manipulateurs leur profil. J'en ai eu dans ma famille, donc j'observe, j'écoute, j'analyse comme un expérimentateur. Et là, je suis allé dans son âme. Je lui dis, mais moi, j'ai une question... Vous vous dites pas que vous les vexez, que vous les blessez en faisant ça, vos amis qui vous invitent? Ah bah non. Bah vous vous dites quoi? Bah parce que non, ils m'aiment bien. Non, je me dis qu'au contraire, ils m'aiment bien parce que je suis venue. Waouh. Donc je pense que ça fait partie.
Il a fait le cadeau de sa présence.
Exactement. C'est un égocentrique. Hein. Ce sont des personnes qui se sentent, ils ne s'en sentent pas mal aimés. Et puis de toute façon, si vous les aimez pas, eh ben, ils passent à quelqu'un d'autre.
Non, quand je disais mal aimé, je pensais que ça faisait partie des reproches dans la victimisation d'un manipulateur, s'adressant à quelqu'un qu'il veut manipuler, lui reprocher de ne pas assez l'aimer ou de mal l'aimer. Non, jamais.
C'est pas... Parent, éventuellement un parent, mais il va pas dire le mot aimer. Il va plutôt dire tu t'occupes jamais des autres. T'es un égoïste. Je pourrais mourir que tu le saurais pas. Parce que tu m'appelles pas comme je le souhaiterais, c'est-à-dire tous les jours ou tous les deux jours.
Ouais. Alors c'est compliqué, après, On va en parler tout à l'heure, mais là, en attendant, qu'est-ce qu'on écoute alors ?
Alors, mon mec à moi, c'est une chanson chantée, interprétée par la merveilleuse Patricia Cass. Et c'est vraiment, si vous écoutez les paroles, le fait que cette femme est sous l'emprise d'un manipulateur, plutôt pervers d'ailleurs, parce que il a... Écoutez, vous allez voir.
On l'écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Et pris dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il sans jamais dire je t'aime. C'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foire, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Isabelle Nazaraga, qui a écrit plusieurs livres sur les manipulateurs. Et aujourd'hui, nous parlons des manipulateurs sont parmi nous. C'est un livre, d'ailleurs, qui a plusieurs formes, puisque les manipulateurs sont parmi nous aux éditions L'Homme, c'est qui sont-ils, comment s'en protéger. Et puis, il y a un autre petit livre, qui est, lui, une édition illustrée, toujours aux éditions de L'Homme. Et puis, il y a aussi, on en parlera tout à l'heure, des cartes. On en parlera plus tard. Mais en attendant, ma chère Isabelle, je vais vous poser une question à vous, personnellement. Est-ce que cet intérêt marqué pour les manipulateurs, c'est le reflet d'une histoire personnelle ?
Pas sur le plan amoureux ou sentimental, ni sur le plan du travail. Ou en tout cas, si j'en ai frôlé une, c'était une directrice à l'université qui voulait me faire travailler comme professeur, et j'ai refusé parce que j'avais déjà tous les indices. Et je disais à ma secrétaire, elle peut me mettre 1 million d'euros ou de francs suisses. Même, je préfère même 1 million de francs suisses, que je ne travaillerai pas pour une personne comme ça. Parce que d'abord, il faudra être payé. Or, les manipulateurs ne payent pas en temps et en heure ou ne distribuent pas, je dirais, les documents suffisants à la comptabilité pour qu'on soit payé normalement. Mais en plus, j'ai envie de dormir la nuit, moi. J'ai envie de me réveiller le matin pour aller dans ce service-là en étant contente. Bon. Et puis, j'en ai eu dans ma famille. Alors là, on les observe de l'intérieur. Et cet attrait, c'est pas un attrait que j'ai eu sur le sujet, mais pas du tout. C'est que j'ai découvert, moi, la présence de manipulateurs très, très jeunes, mais j'avais pas le nom. Très, très jeune, c'est 7 ans, 8 ans.
Ah, c'est-à-dire que c'était vous qui étiez très jeune quand vous avez découvert. Oui. C'est pas des manipulateurs très jeunes. C'est
non,
vous.
Même si j'en ai connu. Mais bien après.
On va en parler après.
Et effectivement, ce n'est qu'à 22 ans et demi où j'avais 13 caractéristiques du comportement manipulateur que j'ai observé chez une personne proche. Et à ce moment-là, ça a été un éclair pour moi. Ça a été une révélation. Ça a été une révélation, mais thérapeutique immédiate. Ok, je savais que j'étais pas folle, Par contre, il y a beaucoup de victimes qui se croient fous, hein, qui se croient coupables, qui ont plus d'estime d'eux-mêmes. Moi, c'était pas mon cas, mais c'est assez exceptionnel. Et là, je me suis aperçu que les patients et les participants à mes groupes de formation qui me parlaient de ces comportements ou des effets sur eux de profil identique ne disaient pas des choses folles. Ils n'inventaient pas, même si ça paraissait incroyable. Moi, je les croyais puisque je l'avais vécu aussi.
Isabelle, il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle petite fille étiez-vous ?
Alors, j'étais personnellement, sans parler des manipulateurs, hein, d'accord.
Quelle petite fille étiez-vous ? Quel est votre parcours ?
Alors, petite fille précoce. Je donnais le bain à mon petit frère à 4 ans, paraît-il, ce que dit ma mère.
Sans mouiller.
Voilà, je faisais l'eau chaude, l'eau froide. Non, j'étais précoce, j'étais très lucide. J'avais un esprit critique et j'avais des réactions, et je les ai toujours. Je suis à sang chaud, c'est-à-dire que j'ai des réactions immédiates. Je ne mens jamais et je ne mens toujours pas. Et ça, c'est connu dans toute ma famille. Super droite, carré, économe.
Vous étiez bonne à l'école ?
Bonne à l'école, en fait, j'ai sauté deux fois des moitiés d'année. Donc, en plus, je suis née le 30 décembre. Donc, l'école commence en septembre, 30 décembre, et deux fois sauté. Donc, à 16 ans et demi, je suis entrée en fac. Et oui, j'ai
toujours... C'est un peu surdoué, ça, c'est un peu un parcours de surdoué. C'est ça, hein.
Oui, testé en plus. Bon, mais ça, c'est
à l'époque, on ne le décelait pas, mais aujourd'hui,
si,
c'est...
Pareil, mais oui. Ma mère ne m'a pas dit le chiffre, ne me l'a pas dit. Et alors, je m'entendais avec tout le monde.
Ah, mais je crois qu'il ne faut pas le dire aux enfants surdoués, oui, parce que sinon, ils se prennent très au sérieux, et puis après, ils risquent de ne plus faire l'effort.
Alors, je faisais bien mon taf, comme on dit, mais sans effort particulier. Mais j'avais plein d'amis et j'ai toujours plein d'amis. Et j'ai pas un clan auquel je m'accroche. Déjà à l'école, j'ai plusieurs petits clans. Je suis très sportive, je suis appréciée par mes profs, je suis rigolote, je suis de bonne humeur. C'est l'enfant que je suis.
Et vous entendiez avec vos parents?
Oui, on peut dire d'une manière générale, oui.
Voilà. Et après, dans la vie, alors sans être intrusif, mais votre vie personnelle, vos amours?
Alors, les amours, j'ai eu des grands amours. J'en ai beaucoup. Et j'ai la chance d'avoir vécu des grands amours. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste, comme certaines personnes qui pensent que, à un certain âge, c'est fini, ou qui pensent qu'elles n'ont jamais été aimées. Moi, c'est l'inverse. J'ai eu cette chance d'avoir vraiment été aimée et j'ai beaucoup aimé.
Ça met la lumière dans les yeux et d'ailleurs vous l'avez.
Mais j'adore. J'ai même à 15 ans, je ne rentre pas dans une relation toxique. Ça, c'est un avantage. Donc je me suis occupée, je continue de m'occuper des gens qui sont dans des relations sentimentales très toxiques.
Alors à quel moment vous avez décidé d'en faire un métier? Parce que ça, c'est particulier.
Très jeune. Très très jeune. En fait, de 5 ans à 15 ans, je voulais être vétérinaire. Et à 15 ans, en fait, mon beau-père, le deuxième mari de ma mère, est un pervers, un manipulateur. À l'époque, je me disputais constamment avec lui et je m'opposais à lui. Et il m'a découragé en me disant, mais tu sais, c'est très compliqué avec les animaux. Ils vont pas te dire où ils ont mal. Alors, j'avais beau avoir une lucidité quand même de base, il m'a quand même mis le doute, ce couillon-là. Parce que franchement, à l'âge de 5 ans et tenir jusqu'à l'âge de 15 ans en disant « je veux être vétérinaire », c'est quand même pas banal.
C'est une vocation.
Ça semblait. Comme quoi, la manipulation mentale peut être très puissante. Et là, j'ai dit « je vais être médecin, puisque les animaux me disent pas où ils ont mal ». Et que c'est très, 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 très dur. Alors, en plus, ce type-là, il fait croire que je ne suis pas capable d'être vétérinaire, mine de rien. Alors que j'en suis tout à fait capable. Et il le sait, d'ailleurs. Et du coup, je dis, je vais être médecin. Et là, comme je ne suis pas très bonne en mathématiques, j'ai 8, 9 sur 20, et encore, je passe difficilement la barre. Et c'est compliqué. Et moi, tant que ce n'est pas concret, je ne comprends rien. Moi, les fonctions, les cosinus, sinus, je vois à quoi ça sert, voilà. Et lui m'aidait en maths. Et il me dit, écoute, médecin, là aussi un mensonge de manipulateur. Il me dit, ça va. Mais tu sais, quand tu veux rentrer en fac de médecine, les deux premières années, c'est que des maths. Ben, j'ai dit, comment ça, on ne fait pas de médecine? Mais non, pas du tout, on fait des maths. Donc il ment, il est ingénieur, il n'est pas médecin, et il me fait... ça c'est une caractéristique des manipulateurs. Ils savent mieux que les professionnels et les experts. Oui. Donc là, il me décourage à nouveau, et en fait, je sais que je suis dans la relation d'aide, et j'ai fait la psychomotricité et la thérapie comportementale très jeune. Je suis rentré en fac de médecine, en fait, pour la section psychomotricité. Et c'est une mission, c'est une mission de vie, c'est une évidence pour moi, jusqu'à la fin de ma vie.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
À la place des grands hommes, voilà, où des gens se retrouvent des années plus tard, qu'est-ce que tu deviens?
De Patrick Bruel.
De Patrick Bruel.
Allez, on l'écoute.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle, la belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient, remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses, comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. L'amour mortel, une nouvelle a fait place. Et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Ben c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, si on est devenu des grands hommes. Des grands hommes.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Isabelle Nazaraga, et nous parlons ensemble de son livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Alors c'est un ouvrage qui a été publié dans plusieurs pays,
oui,
donc il y a eu un grand succès. Mmh. Et puis, vous nous dites que chaque livre, parce que vous en avez écrit plusieurs, chaque livre a une histoire. Mmh. Alors, quelle est l'histoire de ce livre-là, Isabelle?
Oh, la première fois que, en fait, que le livre « Les manipulateurs sont parmi nous » a été publié, c'est en 97. Donc, il a quand même son âge, hein, 24 ans. On en est à la quatrième édition, hein.
Preuve qu'il a du succès.
Il est un best-seller proche des 300 000 exemplaires. Alors moi, je ne le sais pas en tant qu'auteur. Souvent, les gens me disent, ou la famille, « Ah bon, tu as vendu beaucoup de livres. » Bah, nous, en tant qu'auteur, on ne vend pas des livres. Nous, on écrit des livres, on commente nos livres, on présente nos livres. Et surtout, ce n'est pas des livres qu'on présente, c'est on présente un contenu. On est généralement passionné par le... En tout cas, moi, en tant qu'auteur, et non pas écrivaine, parce que je suis pas romancière, j'ai un message à faire passer. Donc, en 97, ce qui s'est produit, c'est que ce premier ouvrage est paru au bout de 6 ans et demi de travail. Les gens ne savent pas nécessairement que quand on sort un ouvrage ou un film, il y a souvent des années de préparation.
C'est comme une maturation, c'est comme une grossesse.
Alors, la maturation, elle a été faite bien en amont des 6 ans et demi, mais pendant 6 ans et demi, pendant toutes mes vacances, j'ai pris des cassettes. À l'époque, on utilisait des cassettes audio pour que les gens enregistrent leur récit vécu. J'avais des feuilles, des milliers de feuilles de récits. Et,
je crois que vous avez 7500.
Oui, 7500.
J'ai noté 7500 récits, notés scrupuleusement.
Ben oui, ben c'est ça. Et là, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui me racontent la même chose. C'est pour ça que j'ai pu déterminer les 30 caractéristiques, sans aucun doute, alors que c'était écrit nulle part. Comment est-ce que j'ai écrit? Sachez que je n'ai jamais eu l'intention d'écrire avant. Mais jamais. Par contre, je l'enseignais. Et je suis bonne à l'oral. Et à ce moment-là, c'est lorsque encore un des stagiaires me dit... Stagiaires, c'est-à-dire ce sont des participants, ce sont des cadres hospitaliers la plupart du temps, ou des cadres des conseils généraux, conseils régionaux, mairies, avec lesquels je développe le problème des manipulateurs dans les services ou dans la vie. Et je donne une réponse à une question. En fait, il y a X questions. Au lieu de passer 2 heures, on passe 7 heures sur le sujet dans la journée. Ça, c'était au début. Je ne comprenais pas pourquoi ça...
Ça prenait cette ampleur.
Ah bah oui, ça galvanisait les foules. Et en fait, je réponds, donne un exemple, 2 exemples, et je finis par dire, vous savez, il y a tellement d'exemples, on pourrait en écrire un livre. Et à 2 reprises en 15 jours d'intervalle, des stagiaires me disent, ben vous devriez écrire un livre. Mais non, je ne sais pas écrire. Mais si, vous devriez écrire. Non, mais moi, je sais parler, je sais enseigner, à l'oral, mais je ne sais pas écrire. Et alors, je ne sais pas si je vais être assez, si j'ai assez de temps pour expliquer, mais la formule que l'une des personnes a utilisée la deuxième fois, c'est de me poser une question qui fait partie justement de la thérapie cognitive. C'est-à-dire, comment confronter une croyance par une question neutre.
Et c'est voilà, savant ça, moi je n'ai pas compris.
Voilà, c'est-à-dire que je leur enseignais la veille comment confronter l'idée, on a parlé tout à l'heure des valeurs et comment nos parents nous enseignent des principes, des croyances et des pensées. Et là, je suis la formatrice qui leur a enseigné la veille comment devenir plus rationnel. Et moi, sans m'en rendre compte, je suis en train d'affirmer « je ne sais pas écrire ». Et clique tout de suite une des participantes qui est cadre et qui me dit, elle est sur ma droite, je la revisualise, et elle me dit « comment le savez-vous ? » Et c'est vraiment une question neutre. Ben, je réfléchis, je dis pas parce que quand j'étais à l'école, les dissertations en français étaient commentées. D'abord, j'avais des notes très moyennes, 8, 9 sur 20, et le commentaire était « phrase trop longue, trop lourde ». Bon. Et elle me dit, elle rebondit là-dessus, c'est-à-dire qu'elle ne se suffit pas de cette réponse-là. Parce qu'en fait, je reconfirme ma croyance que les profs de l'époque
avaient raison.
Pensent, ben oui, pensent réellement que j'ai fait des phrases trop longues, trop lourdes. Et moi, je les crois. C'est intéressant d'ailleurs, on pourrait rebondir sur l'influence des professeurs. Quand ils ont une vision, au lieu de dire...
Quand ils sont négatifs,
oui. Mais oui, mon prof ne m'a jamais dit, tiens, regarde, tu vois ta phrase là, elle est sur deux lignes, tu pourrais la couper en trois, je te l'explique. Ça, c'est mon éditeur qui m'a expliqué ça. À 32 ans. Bon, on continue. Donc, elle me dit, c'était il y a combien de temps? Et là, je réfléchis, parce que vu l'âge que j'avais à l'époque... Je dis, ben, 17 ans. Ben, je dis, non, je dis 15 ans, et ensuite, ben non, 17 ans, puisque effectivement, le bac français était avant le bac général. Et elle me dit, troisième question, depuis lors, est-ce que vous avez déjà écrit? Et je réfléchis, non, à part des cartes postales où je suis assez prolixe, c'est vrai, je n'ai jamais réécrit. Et là aussi, c'est intéressant, comment des profs peuvent
bloquer quelqu'un.
Et j'ai... Et elle fait la quatrième question.
Elle était forte, cette femme.
Mais elle a bien appliqué ce que j'avais enseigné la veille.
Voilà.
Je suis contente de moi parce que j'ai bien enseigné.
Oui. Retour à l'envoyeur.
Voilà. Et là, elle me dit, qui vous dit ou qu'est-ce qui vous dit que vous ne sauriez pas écrire maintenant? Ces quatre phrases, ces 6 minutes ont changé ma vie. J'ai commencé à écrire et j'ai dit, de toute façon, si j'écris pas bien... J'ai bien 2 amis, un journaliste et une qui est diplômée en communication, ils sauront bien me corriger. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'écris bien, sauf que mes phrases trop longues, elles ont été coupées en 3 et j'ai appris tout de suite à faire ça.
Mais il y a quelque chose qui... Vous avez choisi une chanson là qui est pas mal dans le contexte.
Alors, I Will Survive, c'est plutôt même un contexte sentimental. C'est-à-dire que la plupart de mes patients ou les lecteurs m'écrivent pour me raconter à quel point ils sont dans les méandres d'une complexité affolante et destructrice dans le couple. Le couple est peut-être terminé, mais en même temps, I Will Survive, c'est « Je continue ma vie sans toi ».
Radio Cité Genève, Viviane Devitt.
La bouteille à moitié pleine.
Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La bouteille à moitié pleine, avec Isabelle Nazaraga, qui a écrit plusieurs livres sur les manipulateurs. Et nous sommes en ce moment, les manipulateurs sont parmi nous. Nous sommes donc, est-ce qu'on n'est pas tous des manipulateurs? Ça, c'est ma question.
Oui, c'est une question courante. Non. C'est
un
important.
Bon vendeur, est-ce que c'est pas un manipulateur?
Non, c'est un professionnel
qui manipule. Un
influenceur,
est-ce que c'est pas un manipulateur?
Ça peut, mais c'est au niveau personnel à ce moment-là. Il faut voir si dans sa vie personnelle, en dehors de son travail, il continue à manipuler autrui, sa femme, ses enfants, ses copains, ses voisins.
À savoir leur vendre.
Alors, c'est-à-dire que quand il ne vend pas, est-ce qu'il l'est? C'est-à-dire que c'est pas un métier, sauf si on est... peut-être dans les services de renseignement, où là, la manipulation fait partie des techniques, ce sont des stratégies. Les interrogatoires policiers peuvent peut-être, malheureusement, utiliser de la manipulation, la vente, la publicité. Malheureusement, on a un nombre assez impressionnant de manipulateurs vrais dans le monde politique et qui veulent faire croire qu'ils vont aider la population alors qu'ils s'aident eux-mêmes pour leur image sociale. Il y a 5 métiers où on va les retrouver plus que les 3-4% de la population générale.
Et, alors ces 5 métiers, qu'est-ce que c'est?
Alors le premier où on retrouve vraiment une statistique plus, une proportion pardon, plus élevée, ce sont, alors écoutez bien parce qu'il y a 3 mots, c'est médecin, praticien, hospitalier, hein, c'est-à-dire et chef de service. Donc il y a chef de service, hospitalier et médecin. Là, et en plus, je peux rajouter, pour les plus malins et pervers, professeur d'université en médecine. Là, on a des dégâts importants au niveau de l'équipe ou des élèves. On a les politiciens, on a dans l'éducation nationale. On a beaucoup de professeurs qui vont utiliser les élèves pour asseoir leur espèce de pouvoir tyrannique. On a le monde. Alors, que vous et moi, on peut toucher un peu, mais pas la population générale, c'est dans le monde audiovisuel, notamment la production, soit journalistique, mais souvent télévision et production de films. Et on a tous les chefs. Alors là, ça peut concerner tout le monde.
Chef.
Ah oui, chef. Voilà. Chef de secteur, chef de service. Et là,
Isabelle, on ne va pas voir dans chaque chef un manipulateur
non.
quand même.
Non.
Alors comment on arrive à déceler celui qui est manipulateur et celui qui ne
oui.
l'est pas?
Alors, ça, la première des réponses, ça va être dans votre corps. C'est-à-dire, vous, est-ce que vous ressassez des situations ou des dialogues qui se sont faits dans la journée, ou hier, ou avant-hier, ou il y a un mois, est-ce que le sentiment qui est associé à ce ressassement est un sentiment de malaise, ou de confusion, ou de culpabilité? Est-ce que vous avez des manifestations de type trouble du sommeil, anxiété nettement élevée par rapport à d'habitude? Est-ce que vous vous trouvez de plus en plus con, incompétent, idiot, ignorant, inculte, selon les contextes? Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit garçon ou une petite fille en présence de cet individu, qui peut par ailleurs sembler très sympathique quand il est en public? On a aussi l'effet qu'on remarque quand on travaille avec eux ou quand on vit avec eux, qu'il y a un véritable basculement de comportement et de physionomie entre son attitude vis-à-vis du public, les autres, et vis-à-vis de la famille. Dès que la porte est fermée, oui, changement. Que le changement n'est pas seulement du sourire à faire la gueule, mais également comportemental et discours. Le discours est différent. C'est-à-dire que...
En fait, Isabelle, si on comprend bien, pour aider nos auditeurs quand même à décrypter tout ça, parce que c'est pas évident, en fait, le manipulateur, c'est à contrario qu'on sait que c'est un manipulateur.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le ressentiment de la victime, du manipulé, qui crée qui permet de déceler le manipulateur.
C'est la première étape, c'est mon ressenti. La deuxième étape, quand je me dis, il y a quelque chose qui va pas, je me sens mal, je me sens différente. C'est pas normal. Alors, je suis pas amoureuse, d'accord? C'est pas le sentiment amoureux. Je suis confuse. À ce moment-là, j'observe. Et on retombe sur les 30 caractéristiques. Mais encore,
donc,
faut-il les connaître.
Il y a 30 caractéristiques. Vous avez réussi à déceler 30 caractéristiques
oui.
qui font les... Vous pouvez
oui.
nous dire les principales?
Alors, il culpabilise les autres, il change ses opinions selon les personnes, selon les situations, il sème la zizanie, il crée la suspicion, il ment, il est égocentrique, il est jaloux, même si c'est votre parent. Il est jaloux de quoi ? Alors, je ne parle pas de la sexualité ou de la séduction, il est jaloux de votre succès, il est jaloux du nombre de gens qui vous félicitent. Parlant de d'être félicité, le jour de votre anniversaire ou d'une promotion, il peut y avoir une fête, et à ce moment-là, la seule personne qui ne sourit pas ou qui n'applaudit pas ou qui vous dit pas « Tiens, champagne !» Eh bien, c'est cette personne-là, alors que c'est peut-être une personne très proche de vous et qui devrait être très heureuse pour vous. Ça ne se fait pas. C'est une personne dont on parle trop quand il n'est pas là. Et c'est pas « Tiens, j'ai rencontré une personne formidable », c'est « Tu sais, hier, elle m'a dit ceci ou cela, ah oui, toi aussi !» Donc, c'est une personne qui envahit l'espace, et l'espace mental également. Elle ne communique pas clairement, elle répond de façon floue, elle se fait prendre pour une victime, elle essaye en tout cas, et ça marche assez bien. Beaucoup d'autres choses, en fait, hein, parce que je ne vais pas en donner 30. Il faut le lire.
Non, il faut lire le livre.
Bah oui, parce que 30, ça fait beaucoup pour une émission courte, quand même.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Alors, Unstoppable de Sia.
C'est pas mal, hein, c'est pas mal adapté, tout ça.
Ouais, Unstoppable, ça veut dire continuer à avoir vos objectifs et ne déroutez pas, même si on vous dit que vous n'en êtes pas capable. Et les manipulateurs sont là pour vous dire que vous ne pouvez pas briller et surtout pas briller en leur enlevant leur lumière à eux. Mais c'est vous qui avez la lumière.
Alors on écoute Sia.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Yeah.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Nous sommes avec Isabelle Nazaraga, l'auteur des Manipulateurs sont parmi nous. Alors évidemment, on a un million de questions, Isabelle. On a tous envie de dire, et un tel, est-ce qu'il est manipulateur, est-ce qu'il ne l'est pas? Vous nous avez dit, il y a 30 façons de le déceler. Il y en a 14 minimum. Sur ces 30 minimum qui créent le manipulateur. Et on vous a posé une question off, je la répète au micro. Un de nos amis qui est présent à l'émission nous a dit « Et si on offre le livre à un manipulateur ?» Et vous avez répondu « Gardez
non.
votre argent !»
Non, gardez votre argent pour quelqu'un qui peut être dans la suspicion qu'il en est victime ou pas. Mais d'autant que le livre illustré, d'abord je trouve extraordinairement accessible, il est drôle, il a été le fruit de beaucoup de travail avec mon éditeur, mon éditrice au quotidien, et puis Sophie Landa qui a fait les illustrations. On a beaucoup travaillé sur les personnages, enfin moi particulièrement, et Sophie a bien dessiné les choses. Et c'est accessible à des gens qui n'aiment pas lire, des gens qui n'ont pas le temps de lire. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps de lire. Des jeunes, même... Alors, on va parler des jeunes de 15 ans.
C'est un côté BD.
C'est voilà. Un côté BD, mais il y a quand même beaucoup de textes et qui va apprendre l'essentiel du livre originel. Et il coûte 12 euros. En francs suisses, ça ne doit pas être bien plus, hein, 13 francs.
Ça doit être, oui.
Et c'est moins cher qu'une pizza, quoi. Oui. Et ça peut sauver la vie, hein. C'est en bonne prévention.
Alors, je voudrais répéter qu'il existe le gros livre, donc qui n'est pas si gros, n'exagérons rien. Quand je dis gros livre, il est gros par rapport à l'autre.
Pages.
Il est gros par rapport à l'autre. Il a 300 pages.
Oui.
Bon, ça c'est les manipulateurs sont parmi nous. Qui sont-ils? Comment s'en protéger? Et puis vous avez donc écrit une version allégée, on vient d'en parler, avec tous ces dessins qui sont très amusants, effectivement assez humoristiques. Mais vous avez aussi, et je l'ai ici... Vous me l'aviez envoyé. Les manipulateurs sont parmi nous. C'est un petit livret d'accompagnement pour des cartes. Alors racontez-nous ça, parce que ça, c'est très amusant. C'est une petite boîte avec des cartes qui sont de la grosseur de tarot. Pour
exact.
Situer.
Et recto verso.
Recto verso avec plusieurs couleurs.
Voilà, plusieurs couleurs. Alors ce sont des cartes pour vous amener à travailler, à vous exercer, sous forme de jeu ou tout seul, à la répartie. Parce que les
Alors par exemple, on a « Tu ressembles à ta mère ». Et là, il y a deux réponses. « Je vois bien que tu veux me blesser, mais ça ne fonctionne pas ». Ou deuxième réponse, « Non, et tu le sais bien ».
Oui.
Donc c'est une façon d'esquiver, pas rentrer dans le débat.
Et ça porte un nom, c'est la contre-manipulation.
D'accord.
La technique du brouillard est connue en communication, c'est de rester flou. Alors les manipulateurs veulent nous rendre soit quoi. Quoi, ça veut dire COI, hein, c'est quoi, je ne sais pas quoi répondre, ou énervé, et dans tous les cas, il gagne. Moi, par exemple, je suis un sang chaud. C'est-à-dire que si on me provoque, ou si on ment, je ne supporte pas le mensonge, donc je réagis, mais tu dis
vous montez au créneau.
Quoi, oh là là, je monte sur mes grands chevaux. Or, même si j'argumente A plus B égale C, le manipulateur, C ne l'intéresse pas, il ne veut pas la vérité. Il veut me mettre en émoi. Il veut me
Là, il
provoquer.
A réussi. Hein.
Et il a réussi. Mais j'ai mis des années à piger ça. Alors du coup, j'ai adopté une autre façon de faire. C'est une contre-manipulation. Je me retiens de répondre la vérité, de rentrer dans la discussion, d'argumenter,
Donc
de me justifier.
Donc on respire un grand coup, qu'est-ce qu'on fait là?
Eh bien, je me fais une phrase intérieure. Je sais qui tu es, mais tu ne sais pas que je le sais. Et oui, et pour ça, on est à la troisième étape. C'est-à-dire, j'ai ressenti que ça n'allait pas, j'ai observé qu'il y a un manipulateur, j'ai fait mon diagnostic, et maintenant, eh ben, ma chère, tu ne vas pas réagir comme avec des gens normaux. Et donc, tu vas te retenir de lui donner à manger. Et ce qui lui donne à manger au manipulateur, ce sont nos émotions, nos réactions. Le fait, parce que le but, ce n'est pas qu'il me dévalorise, ce n'est pas un but, c'est un moyen. C'est pas qu'il mente, c'est un moyen de se sentir supérieur aux autres. C'est un drame pour eux. Mais en fait, ils ne le ressentent pas ce drame, parce qu'il y a toujours suffisamment de gens sur lesquels ils peuvent jouer pour se sentir supérieurs. Et ça, jusqu'à leur mort. Donc ils ne tombent pas en dépression. Nous, oui. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des petites phrases courtes. On va éviter de rentrer dans la discussion. Donc, exemple, tu as le droit de le penser. C'est possible. Mais on peut aussi utiliser l'humour. Exemple, ah ben bah dis donc, bonjour, bisous. Ah ben t'as grossi. Ah ben ouais, on se touche le ventre. Je vais mes réserves pour l'hiver. Donc ça, c'est répondre avec de l'humour. On peut y répondre avec de l'ironie, sachant que c'est plutôt pour des gens comme moi qui ont tendance à rentrer dans l'agressivité. Et à ce moment-là, on rentre dans une agressivité contrôlée et intellectualisée. L'ironie, c'est les chiens font pas les chats. Par rapport à un parent, mère manipulatrice. Hein, qui... Pourquoi? Parce que le manipulateur, il va nous reprocher ce qu'il fait lui-même. Ça s'appelle des projections. Et en plus, il est capable de me dire « t'es égoïste » alors que je ne suis justement pas égoïste, mais que l'autre, lui, elle, est égoïste. Et à ce moment-là, au lieu de dire « mais tu dis n'importe quoi, excuse-moi, qui est-ce qui s'occupe de toi? Qui est-ce qui t'a offert ça? Qui est-ce qui... » Non, non, stop, 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 faut plus faire ça. Faut lui dire « les chiens font pas les chats ». C'est-à-dire que je la laisse penser qu'elle a raison, mais je suis en train de lui renvoyer un petit boomerang. Alors là, elle va faire la gueule. Hein. Alors là, vous en avez pour 3 jours. Hein. Ben oui.
3 jours de gagner, en fait.
Voilà. Donc, ça s'appelle de la contre-manipulation. C'est 90% d'entre nous ne savent pas faire ce genre de choses. Moi-même, je ne savais pas faire ça. Ça s'apprend. Et ce jeu, qui là aussi est, peut être un bon moyen de jouer avec des amis ou de la famille, hein. On peut prendre une phrase. Il y en a 2 par carte. De manipulateur, et dire, voilà, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Souvent, on se plante, et on dit, bah écoute, qu'est-ce que tu penses de ça et ça? Ah oui, génial! Et là, à ce moment-là, si on a l'habitude... Ah oui, parce que les manipulateurs, ils vous répètent les mêmes 20 reproches, toute leur vie.
Voilà. Alors, c'est quoi les reproches en général? C'est ah bah, j'en sais rien. C'est tu égoïste,
tu... Ah ben, tu t'occupes que de toi, toute façon, tu sais pas élever tes enfants, t'es trop laxiste ou t'es trop sévère avec tes enfants. Donc là, on peut répondre, il faut savoir l'être parfois. Vous voyez, dans les 2 cas opposés...
En fait, c'est une façon de s'échapper.
Oui, exactement.
Ne pas rentrer dans le débat.
Exactement. Parce que ça ne sert à rien, comme je vous dis. A plus B égale C ne l'intéresse pas. Ils veulent... Et c'est ça qu'on peut prendre du temps. Et moi, je veux... à comprendre parce que je veux à travers ces ouvrages expliquer aux gens de ne plus perdre de temps à faire changer les manipulateurs. Ils ne peuvent pas changer.
C'est peine perdue.
C'est une pathologie psychiatrique, c'est une pathologie de personnalité, c'est structurel. Et puis sauvez-vous parce que finalement là, je donne des outils pour pouvoir interagir avec ces gens. Tant qu'on est encore en contact, ça peut être par mail ou téléphone ou en face à face, mais la meilleure option, c'est éloigner de vous, ne prenez plus de vacances avec cette personne, changez de travail, quittez, mettez 10 000 km et ne lui dites pas, viens à Noël passer les vacances chez nous.
Ma chère Isabelle, ça va être le mot de la fin. Malheureusement, c'est toujours trop rapide quand c'est passionnant comme ça.
Merci.
Alors, merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Cité Genève pour nous expliquer que les manipulateurs sont parmi nous. On a bien compris qu'en fait, le salut réside essentiellement dans la fuite. Mmh. La fuite en parole ou la fuite en vrai.
Exact.
Merci Isabelle.
Merci à vous
à
de
bientôt.
M'avoir invité.
Et on remercie Olivier Steinmetz, notre réalisateur. À bientôt.
Radio Cité Genève.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang.